Bonjour Jean-Noël.
Bonjour.
Jean-Noël, vous êtes le responsable, le créateur de l'Observatoire des Causses à l'Aubrac. Vous êtes du côté de Sévrac-le-Château, c'est ça?
Oui, tout à fait, près de la Verne.
Très bien. Et Jean-Noël, vous nous proposez, alors notamment pour le mois d'août prochain, mais aussi ces jours-ci, on va en parler, des stages, des formations, en tout cas des grands moments de découverte, hein, découverte du ciel grâce à vous. Ce qui m'a intéressé en premier, Jean-Noël, c'est ce stage ballon stratosphérique expérimental que vous proposez au mois d'août prochain, là, du côté de chez vous. C'est quoi exactement?
Donc, le but principal, c'est une activité pédagogique. C'est un ballon expérimental avec des expériences embarquées qui permettent de faire des prises de mesures sur la météo, sur l'astrophysique aussi, sur la physique, sur la mécanique, et qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir la science et de partager leurs mesures avec des chercheurs professionnels. Donc ça rentre dans le cadre de sciences participatives. Et ça les implique à 100% dans une activité concrète.
D'accord. Alors là, on est bien d'accord, ce stage au mois d'août de ballon, là, ballon stratosphérique, on n'est pas dans le ballon dirigeable qu'on a pu voir, on monte dedans et puis on va regarder les paysages.
Non, c'est une enveloppe, c'est un ballon qui fait à peu près un mètre de diamètre, gonflé à l'hélium, avec une nacelle avec environ 2 kilos de matériel informatique dedans. Et puis un radar réflecteur aussi pour que les avions puissent le détecter.
Ouais.
Et donc, c'est un vol non habité. Voilà. Après, à peu près 30 km d'altitude, le ballon éclate et redescend avec son parachute prédéployé doucement sur Terre.
30 km d'altitude, ça monte?
Oui.
Ça fait 3-4 fois l'Everest, c'est au-dessus des avions, on n'est pas loin de l'espace?
C'est aux portes de l'espace, oui. Alors, on reste encore sur Terre quand même, mais ça permet déjà d'avoir des... Si on veut faire des expériences liées au rayonnement solaire et au rayonnement cosmique, on peut capter des longueurs d'onde de la lumière que l'on ne voit pas sur Terre.
D'accord. Alors, ces stages que vous proposez, parce qu'il y a plusieurs sessions au mois d'août, hein. Chez vous, c'est un stage de 2 jours et ça va consister en quoi exactement? On fabrique le ballon, on fait l'expérience
Voilà, donc le premier jour déjà c'est la présentation de qu'est-ce qu'un ballon stratosphérique, comment on fait pour pouvoir en lâcher en toute sécurité, parce qu'il y a une réglementation assez draconienne sur cette activité, parce que même si ça va plus haut que les avions, ben ça passe quand même dans le territoire des avions.
Ouais.
Et puis quand ça redescend sur Terre, à peu près 5 mètres par seconde, il faut que ce soit bien préparé pour que ça ne fasse pas de dommages. Donc il faut faire une prévision de la trajectoire de vol, de dire avec la météo la veille, ben ça va retomber sur tel secteur. Et donc voilà, c'est déjà présenter l'activité, qu'on ne peut pas faire ça après tout seul chez soi comme ça.
Mmh.
Et puis ensuite, on définit les expériences embarquées que l'on va mettre dans la nacelle. Les participants fabriquent la nacelle, mettent les instruments dedans, les calibrent. Et puis, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met aussi un appareil numérique pour faire des prises de vue, parce que là, du coup, ça fait des chouettes photos.
Ah bah ouais.
Voilà, comme si on était dans l'ISS, hein, on est un peu plus bas, mais bon.
L'ISS, c'est la station spatiale,
internationale. Voilà, qui est un peu plus haute quand même,
ouais.
À 400 km.
Ouais.
Mais déjà, on voit le ciel noir et on voit la couche de l'atmosphère, donc c'est quand même assez chouette. Et on prépare le vol pour le lendemain. Ensuite, le vol dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie.
D'accord.
Et quand on récupère la nacelle, on peut traiter les mesures prises par les instruments.
D'accord. Voilà. Donc on est un peu, voire même beaucoup, dans une expérience scientifique. On n'est pas simplement là pour s'amuser et faire des belles photos.
Ah non. Il faut que ce soit des expériences scientifiques embarquées.
Mmh.
Même si c'est à but pédagogique, ça sert quand même parce qu'on les partage aux chercheurs. Et c'est vraiment pour que les gens apprennent des choses sur les sciences, hein.
D'accord.
Que ce soit les élèves ou les familles, voilà, c'est pas fait pour ce musée.
Alors, j'imagine qu'on n'envoie pas un ballon comme ça à 30 km d'altitude sans prévenir personne, en faisant comme on
Alors,
veut. Déjà, parce qu'il y a des avions qui passent, même si l'Aveyron, c'est pas New York, c'est pas le Sahara non plus, quoi. Donc, il y a des autorisations, tout ça doit être très très serré avec les autorités, voire même militaires, non?
Oui, alors c'est la direction générale de l'aviation civile, en fait. Donc il faut faire une demande en expliquant pourquoi on lance le ballon, justifier de son assurance aussi, qui est assez draconienne, pour faire cette activité, de proposer des dates, des horaires, et si c'est accepté, ensuite, l'heure avant le lâcher, on retéléphone à la tour de contrôle la plus proche pour valider le lâcher, parce que en fonction des horaires de vol prévus, il y a toujours des imprévus avec des retards. Et donc, si l'agenda du balai des avions dans le ciel est perturbé, eh bien, du coup, l'heure d'avant, les 2 heures d'avant, on peut réajuster l'heure du lâcher en fonction des avions qui passent ou pas dans le secteur.
D'accord, la tour de contrôle la plus proche de vous, c'est celle de Rodez, à Sévérac?
Oui, Rodez, oui.
Ok. Alors le ballon ensuite, il monte, vous m'avez dit, c'est un vol de 2 heures et demie, avec tout un tas de matériel pour faire des expériences, recueillir des données, et puis le fameux appareil photo aussi. Alors après, si j'ai bien compris, à bout d'un moment, le ballon à 30 km, il éclate et tout retombe. Donc comment, déjà, ça retombe pas à l'endroit où ça a décollé, ça bouge, ça va loin?
Alors, c'est en fonction des vents. Ça peut tomber à jusqu'à 200 km plus loin.
Ah bah ouais.
Voilà. Donc là, il y a 2 solutions. Soit on met, alors dans tous les cas, on marque sur la nacelle, que ce soit visible, le numéro de téléphone à qui appartient le ballon, pourquoi c'est une expérience scientifique, pour que si des particuliers le trouvent, puissent téléphoner. Et soit on met un tracker GPS dedans, mais souvent c'est des petits appareils qui sont bridés à 4000 mètres, et du coup on perd le contrôle à 4000 mètres. Donc ben là, en fonction de la trajectoire prévisionnelle de vol, on sait quand même plus ou moins vers où ça va aller. Et quand le ballon éclate et qu'il redescend à moins de 4000 mètres, du coup là on peut le recapter sur le téléphone et puis aller petit à petit là où ça tombe. Ou soit c'est par télédétection, et là ça demande aussi des autorisations dans les ondes radio. Mais si vous faites la radio, vous ne connaissez pas, il faut demander une bande passante. Donc là c'est d'autres autorisations aussi.
Mais alors ça peut tomber dans des endroits soit difficilement accessibles, dans de l'eau, dans des cavernes, dans des trous ou même sur une baraque.
Alors dans une caverne, ça serait
Pas de
si c'est
bol.
dans un aven sur le Cosmé géant, ça serait vraiment pas de bol. Mais oui, ça peut tomber. Alors la plupart du temps, ça tombe dans des pâtures quand même. Donc ça voilà. Et puis c'est une nacelle qui est légère et on peut l'étanchéiser. Donc même si ça tombe sur un cours d'eau, voilà, on peut. Et si on fait de la télédétection, du coup, les données, elles sont sauvegardées. Même si
D'accord.
on retrouve pas la nacelle, on a quand même les données. Si on n'a que le tracker et qu'on met une carte SD pour mettre les données, enfin pour récolter les données dans la nacelle, c'est un risque. Parce que si on perd la nacelle, ben les données, on les retrouve plus jamais.
Et oui. Alors, Jean-Noël, ça fait l'Observatoire des Causses à l'Aubrac que vous avez créé et que vous animez. C'est une structure assez récente, hein. C'est vol de ballons stratosphériques là depuis Sévrac. Là, cette année, ça va être la première année. On teste ou non, non, vous connaissez déjà le truc, vous l'avez déjà
Oui,
fait.
je connais l'activité. J'ai fait une formation en lien avec le CNES pour faire cette activité. Donc là, c'est la première fois que je vais le faire dans mon coin, mais je l'ai fait dans un autre cadre avec d'autres professionnels, où on a fait ça dans la règle de l'art. Donc c'est
D'accord.
voilà. Il n'y a pas tellement de différence, quoi. Sauf que voilà. Maintenant, je le fais avec ma structure.
Ça me fait penser, ces histoires de ballons, à pas mal de choses, hein. Il y a eu, il y a quelques mois, les fameux ballons chinois ou pas, on ne sait pas, au-dessus des États-Unis, on se demandait si c'était des ovnis, une attaque, enfin bon, voilà, ça a
Oui,
été
ou
tout
de
de suite.
l'espionnage. Bon,
Voilà, bon.
après, Il y a beaucoup de ballons qui sont lâchés tous les jours. En fait, Météo France et le CNES lâchent des ballons tous les jours pour des expériences et pour des prises de mesures météo.
Ouais.
Donc, il y a beaucoup de ballons qui volent le temps d'une journée.
Ouais.
D'autres ballons qui sont des recherches scientifiques plus importantes. Et là, c'est des ballons qui peuvent faire le tour de la Terre ou alors la moitié et qui montent un peu plus haut et qui durent plusieurs jours. Donc, c'est des expériences scientifiques aussi. Après, s'il y a eu des histoires d'espionnage, bon, moi, je ne connais pas le fin mot de l'histoire par rapport à ces ballons chinois. Mais peut-être que c'était purement et simplement des expériences scientifiques, hein, on ne sait pas.
Ouais.
Là, alors, je ne saurais pas vous répondre pour ça. Hein.
Bon, et un autre dossier autour des fameux ballons, encore plus anciens. Vous allez prévenir un peu tout le monde qu'il y a des ballons qui vont passer au-dessus de Sévrac et dans ce coin-là, parce qu'il ne faudrait pas que ça nous fasse le coup de, entre guillemets, d'ailleurs on ne sait toujours pas non plus, le coup de Roswell, qu'on ne vous prenne pas pour des extraterrestres.
Ah non, 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 mais comme je vous disais, hein, y a Météo France qui en lâche tous les jours, et puis ça part de Toulouse, de Lyon, de... Voilà, les gens, ils vont peut-être croire que c'est à lâcher suite à une fête scolaire. Et, parce que des fois, il y a des tout petits ballons qui sont lâchés à l'hélium avec des cartes postales.
Ah oui.
Qui montent beaucoup moins haut et qui, là, ne demandent pas de compétences aussi draconiennes. Mais non, non, je pense pas que les gens...
Pas de panique. Il y aura, vous n'allez pas créer une panique au mois d'août en Aveyron.
Non.
Mars attaque, ce sera pas
assez vrai. Alors, pas de la panique, mais là, il y a quelques jours, le 11 au soir, il y a eu un bolide qui.
Oui.
Une grosse étoile filante qui a été vue. On a eu 220 témoignages sur Vigiciel.
Mm-hmm.
Donc là, ça a fait plus réagir. Un ballon stratosphérique.
Bon, ces stages, Jean-Noël, vous les proposez au mois d'août en Aveyron, il y a plusieurs sessions, des stages de 2 jours. Ouais. On précise qu'ils sont réservés à des adultes, hein. C'est pas pour des enfants, là, ce coup-là. Hein.
Alors, les adolescents, à partir de la 4e, 5e même, peuvent venir avec leurs parents ou des adultes proches s'ils participent au stage aussi.
D'accord.
Ils peuvent pas venir tout seuls, mais... dans tous les cas, même pour les adultes, c'est pour les adultes débutants.
Mmh.
Et en astronomie, en météorologie, les adultes débutants, des fois, partent avec les mêmes bagages qu'un grand adolescent.
Ouais.
Voilà, voilà. Donc, ils peuvent venir quand même.
Ok, un stage de 2 jours qui coûte, je ne sais plus, 250 euros ?
Oui, voilà. C'est 250 euros.
Ouais.
Donc, ça comprend l'encadrement pédagogique, le matériel. Voilà, c'est une activité qui peut coûter un certain prix.
Ah bah oui.
Mais par exemple, ne serait-ce que l'hélium à mettre dans un ballon, ça a déjà un certain coût. Donc, il y a des instruments aussi qui se mettent dedans. Donc, ouais. C'est justifié par,
ouais, oui.
Par le coût de l'activité, ne serait-ce que matériel, en fait.
Bien sûr. Comment on fait pour s'inscrire, pour réserver sa place dès maintenant, si on a envie?
Alors, sur le site internet de l'Observatoire des Causses à l'Ombrague, donc c'est simplement observatoire-causses-ombrague.fr.
Ouais.
Et dans la rubrique stage d'astronomie, et puis vous vous laissez guider par le site internet vers les billetteries en ligne. Voilà. Et vous pouvez choisir votre week-end.
Très bien. Donc ça, c'est pour le mois d'août. Mais en attendant, pour les passionnés de ciel, hein, d'astronomie notamment, et peut-être aussi pour des plus jeunes ce coup-ci, il y a ces jours-ci d'autres stages que vous proposez. C'est le chasse à la météorite, mais bon, vous aimez peut-être pas le terme chasse.
Si, chasseur de météorite peut être un terme, c'est fait dans les règles de l'art.
Bon.
Et c'est fait à des fins scientifiques.
Ah. Et alors, en quoi ça consiste?
Alors, en fait, donc là, c'est dans le cadre du projet Vigiciel qui est porté par le Muséum National d'Histoire Naturelle,
ouais.
L'Observatoire de Paris, le CNRS et d'autres universités. Donc, moi, je suis le relais local pour cette activité.
Ouais.
Et on s'est rendu compte qu'au XXe et XXIe siècle, on retrouve en France beaucoup moins de météorites qu'au XIXe siècle.
Ah bon?
Et pourtant, il y a la même quantité qui tombe.
Ouais.
Donc, pourquoi? Alors, il y a différentes causes. Il y a la pollution lumineuse, le fait que les gens restent dans leur salon, sur leur téléphone portable.
Regarde-moi le ciel.
Voilà, regarde-moi le ciel. Aussi, en agriculture, Maintenant, il y a des enfuis sur le roche, alors qu'au 19e siècle, c'était un travail plus manuel, donc les agriculteurs étaient plus amenés à se retrouver nez à nez avec une roche en se disant, mais cette roche-là, elle n'a rien à voir avec, avec mon terrain calcaire, par exemple. Et du coup, on a développé un réseau d'une centaine de caméras qui sont pointées vers le ciel et qui captent les bolides, même en pleine journée. Donc, un bolide, c'est une étoile filante très lumineuse. Et par trigonométrie, si plusieurs caméras les captent, on peut reconstituer l'ellipse de chute et puis déclencher des battues si, si la masse finale de chute vaut le coup. Mais les témoignages visuels sont très importants, les particuliers, parce qu'il suffit que la caméra, qui soit sur Rodez ou sur le Blémard par exemple, il y ait des nuages. Et bien, du coup, des fois, les témoignages visuels... permettent de compléter cette ellipse, ce calcul de trajectoire. Et quand on va sur site pour chercher les météorites, ben, faut savoir les reconnaître.
Eh oui, eh oui.
Donc la formation météorite, ça permet de différencier les roches terrestres des roches extraterrestres qui tombent sur Terre et d'être plus efficace quand on va dans les pâtures après chercher... est tombé. Donc ça permet, donc là c'est dans le cadre de sciences participatives aussi, ce que l'on trouve, ça sera pour les chercheurs, ça sera pas pour les gens.
Ah bon ?
Ni pour moi, non, non.
Non mais il n'y a pas moyen de négocier un peu quand même, si jamais c'est un tout petit que je trouve.
Alors, si vous trouvez une météorite dans votre jardin, vous avez le droit de la garder, hein, il n'y a pas de loi pour ça, mais après, rien ne vous empêche de la confier à des chercheurs, quitte à la récupérer après, mais au moins de la confier pour que des... Parce que ça contient des informations très importantes de la formation du système solaire, parce que c'est des informations qui sont emmagasinées, qui n'ont pas bougé depuis plusieurs milliards d'années. Et quand ça tombe sur Terre, mais du coup, il y a de l'érosion due à l'humidité, par exemple. Puisque la roche n'a pas connu dans l'espace. Donc il faut aller vite, en fait. Quand ça tombe sur Terre, il faut aller vite pour la trouver, pour éviter que des informations disparaissent. Et du coup, c'est quatre mallettes dans lesquelles se trouvent des météorites en bloc, en lames minces, en tranches, et ça permet d'avoir un panel très représentatif de ce qu'on peut trouver sur Terre. Voilà. Et on fait différentes expériences avec.
D'accord, donc ça, ces formations, c'est à partir de ce week-end, je crois, c'est jusqu'au 7 mai que vous proposez des sessions. C'est toujours à l'Observatoire des Causses à l'Aubrac, hein, chez vous à Sébrac.
Ouais, voilà. Et donc là, c'est dans une salle d'activité.
Ouais.
Et du coup, il y a des microscopes aussi qui permettent de voir l'intérieur des météorites. Et c'est quelque chose d'assez chouette quand même. Il y a des formations que l'on ne voit pas sur les roches terrestres.
Là, cette formation, ces jours-ci, ces prochains jours, elle est ouverte à un public un peu plus large que celle des ballons stratosphériques, à un enfant...
Oui, là, à partir de 7 ans, c'est bien.
Ok, ah oui, c'est trop bien. Okay. Ça coûte combien ?
Alors, c'est 12 € par personne et ça dure 2 bonnes heures.
Ok, très bien. Oui, bon, bah, super. Oui, c'est pas cher en plus. C'est parfait.
Et alors, du coup, les gens qui suivent la formation aussi, en cas de chute de météorite dans le coin, quand on parle de chute, c'est pas le scénario catastrophe. Hein,
c'est pas la fin du dinosaure.
D'un kilo, 500 grammes, 20 grammes. du coup, les gens qui ont participé aux formations, je les contacte en cas de chute et ceux qui sont disponibles peuvent nous accompagner pour chercher sur site dans les pâtures. Voilà. Et plus on est nombreux et plus il y a de chances d'en trouver.
D'accord. Tiens d'ailleurs, ça allait être ma question là. J'allais vous demander si vous êtes au courant, il y a des météorites ou météores qui sont tombés dans notre coin et qu'on n'a pas encore retrouvé et que vous allez chercher. Il y a des météorites dont vous êtes au courant qu'elles sont tombées par chez nous mais qu'on n'a pas encore retrouvé ?
Non, enfin, là vraiment récemment, vous parlez du bolide qui est passé.
Celui-là apparemment il n'est pas tombé en Aveyron, ils l'ont vu passer, je ne sais pas.
Oui, la chute finale c'est plutôt vers Toulouse, ça a traversé toute l'Occitanie.
D'accord.
Mais l'estimation de la masse finale est trop faible pour déclencher une recherche. Donc, des fois, en fait, le phénomène lumineux du météore peut être vraiment très important, très impressionnant. Mais des fois, il y a quasiment... Soit il n'y a plus rien, parce que c'est un bloc de glace, par exemple, qui vient d'un bout d'une queue cométaire.
D'accord.
ou soit ça tombe en très fine poussière et du coup ça sert à rien d'aller chercher sur site. Mais sinon, pour les dernières météorites qui étaient tombées en Occitanie, il y a quelques années, et du coup il y a des recherches qui avaient été déclenchées et qui n'avaient pas forcément abouti, mais les dernières trouvailles c'était en Normandie. Là c'était en février de l'année dernière. Et là, on avait trouvé des choses. Et là, c'est un astéroïde. On a eu le temps de le voir arriver, en fait. Et on a pu prédire au fur et à mesure
Ah oui, il
son
allait
chute.
tomber.
Et des fois, on peut le prévoir en avance.
Tiens, d'ailleurs, question à ce sujet-là. Ces stages météorites, ces prochains jours, là, du 21 avril au 7 mai, c'est une bonne période pour les étoiles filantes, comme on dit communément. On entend parler de l'été, le mois d'août, paf.
Oui, alors le mois d'août, on entend parler des perséides, hein, forcément, parce que c'est une pluie d'étoiles filantes assez importante. Hein. Mais il y en a toute l'année, en fait. Hein. Chaque mois, il y a des pluies d'étoiles filantes qui peuvent être des fois beaucoup plus faibles, au lieu d'en avoir 100 par heure comme les perséides. On va en avoir 4 par heure. Donc forcément, on va moins traîner dehors. Mais tous les jours, il y a des étoiles filantes. Et au mois de décembre, il y a les Géminides.
Ah ouais.
Donc, c'est vers la mi-décembre. Et là, c'est plus impressionnant que les Perséides.
Ah bon, sauf qu'on voit pas grand-chose vu que c'est au mois de décembre, c'est
Ben,
pas.
si, on peut
Ah
voir
bon?
beaucoup de choses, sauf qu'il fait froid.
Ah ouais.
Donc, les gens ne vont pas dehors. Et, mais si le ciel est bien dégagé, les ciels d'hiver sont vraiment très chouettes si c'est bien dégagé. Hein.
D'accord, ok. Bon bah merci beaucoup Jean-Noël de toutes
Eh
ces
bien, merci, je vous
informations
remercie.
et toutes ces formations que vous proposez, les météorites ces prochains jours et puis au mois d'août ces fameux stages ballon stratosphérique expérimental que vous proposez pour des durées de 2 jours à chaque fois. Merci beaucoup Jean-Noël. Amusez-vous bien
Merci
parce que là
beaucoup.
on parle beaucoup de science, c'est très sérieux, mais enfin bon, c'est des trucs sympas. Hein.
Oui, c'est voilà, c'est fait en sorte que les gens puissent aborder ce sujet sans s'arracher les cheveux.
Ouais.
Voilà, c'est un but pédagogique et que les gens prennent plaisir à faire l'activité. Voilà.
Eh ben merci beaucoup, Jean-Noël, au plaisir.
Merci.